Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Ndali Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. L'ONG Justicia ASBL dénonce l'usage excessif de la force par les militaires des FRDC face à une population civile non armée lors des incidents de dimanche dernier à Bukama. Dans un communiqué publié lundi dernier, cette ONG exige des mesures fortes contre les violations des droits humains commises dans la cité de Bukama. Nous parlerons aussi dans ce journal de l'ONG Fédération Congolaise des Droits de l'Homme et des Développements qui dénonce une grave pollution de l'environnement dont seraient victimes les élèves et les corps enseignants du complexe scolaire Les Amis situé au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu à Boma. Les détails dans quelques instants. Les FARDC ont officiellement requalifié le mouvement Mobondo en groupe armé à neutraliser, estimant que son niveau d'organisation, son arsenal et ses modes opératoires relèvent désormais d'une rébellion constituant une menace directe pour la sécurité nationale. C'était le 28 décembre dernier, lors d'un point de presse tenu par l'armée à Kikwit. À la fin de ce journal, vous suivrez les points de vue des uns et des autres qui intervenaient hier dans l'émission Dialogue entre Congolais. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ce journal part de la province du Haut-Lomami, où l'ONG Justicia ASBL dénonce l'usage excessif de la force par les militaires des FRDC face à une population civile non armée lors des incidents qui se sont passés dimanche dernier à Bukama. D'après cette ONG, les militaires des FRDC ont usé des armes lourdes pour s'en prendre à une population civile non armée dans la cité de Bukama et sous un prétexte d'une attaque des miliciens Maïmaï. Dans un communiqué de presse lundi, Justicia ASBL exige que des mesures fortes soient prises contre les violations des droits humains commises dans la cité de Bukama. Maître Timothée Mbouya, président national de Justicia ASBL, l'a dit au micro de Radio Okapi.
Ce dimanche 10 janvier 2026, aux heures du matin, des militaires FARDC en provenance de la base militaire de Kamina s'en sont pris très violemment aux citoyens du territoire de Bukama. Sans donner de raison, sans savoir exactement le pourquoi, mais ce que Justicia dénonce, c'est le fait qu'une dizaine de personnes ont été tuées, et une dizaine d'autres blessées et plusieurs personnes sont portées disparues. Il y a une psychose d'insécurité terrible dans le territoire de Bukama pendant que nous parlons. Les gens sont chez eux, ils sont vivent dans la peur, ils savent pas ce qui se passe et l'autorité ne communique pas exactement pour savoir ce qui se passe. Nous avons vu le communiqué des FARDC qui parle d'une attaque Maïmaï, ce dont nous ne sommes pas du tout certains, parce que les informations sur place renseignent qu'il n'y a pas eu d'attaque, qu'il n'y a pas de mouvement Maïmaï dans Bukama et que pour nous, cette attaque, c'est une attaque vraiment arbitraire, dirigée contre des populations civiles, sans savoir les raisons pour lesquelles ces gens sont punis. Et pour cela, Justicia ASBL demande que les responsabilités soient établies à travers une mission d'enquête indépendante et que les coupables soient punis.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, quatre présumés voleurs à main armée, accusés d'alimenter l'insécurité dans plusieurs quartiers de la cité frontalière de Kasindi-Lubiria, ont été arrêtés samedi dernier par les services de sécurité. Ils ont été présentés ce mardi à la communauté par le délégué du gouverneur dans cette commune rurale située à la frontière avec l'Ouganda, à environ 90 km au nord-est de Beni. La société civile salue cette opération et appelle au renforcement des mécanismes d'alerte pour prévenir d'autres actes criminels. Paul Zaidi, rapporteur de la société civile de Kasindi, s'est exprimé au téléphone de Marc Marofimbo.
La société civile Force Vive salue et encourage les efforts du comité local de sécurité qui ont abouti à l'arrestation d'un groupe de bandits auteurs de l'insécurité ayant longtemps perturbé la quiétude de la paisible population à la frontière congolo-ougandaise de Kasindi-Lubiria et que ces présumés malfrats soient déférés devant leur juge naturel à Beni pour répondre de leurs actes conformément à la loi. Cette démarche permettra de lutter contre l'impunité et de renforcer la collaboration civilo-militaire, gage d'une sécurité durable. Par ailleurs, la société civile appelle la population à collaborer étroitement avec le chef de base ainsi qu'avec le responsable de la police, de l'armée et des autres services de sécurité, notamment par le partage d'alertes et d'informations utiles afin de mettre hors d'état de nuire tous les groupes criminels opérant dans cette partie du territoire de Beni au nord Kivu.
À Ituri, les médias locaux gagnent progressivement en professionnalisme, tandis que de nombreux journalistes améliorent leur écriture grâce aux séries de formations organisées par la section de communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO. C'est le constat dressé par des professionnels des médias à l'issue d'une formation de 2 jours qui s'est clôturée ce mardi à Bounia. Selon eux, ces ateliers de renforcement des capacités permettent de mieux répondre aux attentes des auditeurs à travers un traitement rigoureux de l'information tout en évitant la manipulation par les ennemis de la paix. Isaac Remoyope pour les détails.
Une quinzaine de professionnels des médias de Bounia et de Kassigny, à environ 60 km aussi de Bounia, ont suivi ce mardi une formation axée sur l'écriture journalistique. Les participants ont notamment appris à identifier les différents formats journalistiques, à structurer une phrase journalistique, à collecter et traiter l'information en répondant aux 5 questions fondamentales, ainsi qu'à faire la différence entre la communication et le journalisme. Pour un journaliste attaché à l'Assemblée provinciale de l'Ituri, cette formation lui permet de mieux traiter les informations politiques tout en évitant la manipulation de certains acteurs politiques en quête de positionnement. Willy Singoma.
Moi, je vais les orienter. Beaucoup préfèrent même manipuler des journalistes, des hommes des médias pour se positionner politiquement. Moi, je ne peux pas tomber parce que déjà, je suis outillé.
Pour d'autres journalistes, cette formation a permis d'affiner leur savoir-faire conformément aux standards internationaux, ce qui contribue à renforcer la crédibilité de leurs médias et à accroître leur audience en répondant aux attentes des auditeurs. Grâce Birungi Bewanja de la Radio Candip.
Ça sera d'améliorer notre façon de faire. On aura en plus des auditeurs que le nombre qu'on a maintenant.
La province de l'Ituri compte plus de 40 radios. La majorité d'entre elles ont déjà bénéficié de ces formations de la MONUSCO. Certaines ont également reçu des panneaux solaires, toujours de la MONUSCO, leur permettant de fonctionner de manière continue tout au long de la journée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Dans la province du Maniema, la radio communautaire Kindu Fréquence Modulée KFM a célébré les 12 janvier, ses 20 ans d'existence au service de la population. Son directeur s'est dit satisfait du travail accompli aux côtés des communautés locales, tout en plaidant pour l'exonération fiscale des radios communautaires qu'il estime asphyxiées par la multiplicité des taxes imposées par l'État. Reportage signé Florence Kizalunga.
Selon le directeur de la station, KFM a sans interruption servi l'ensemble de la communauté durant ces 2 décennies. À l'occasion de cet anniversaire, il appelle à une reconnaissance du rôle joué par le radio communautaire, notamment à travers une exonération de certaines taxes. Il souligne que, comme toutes les autres radios du Maniema, KFM fait face à de nombreuses obligations fiscales qui compromettent son bon fonctionnement. Jean Chrysostome Kawaya.
Sans interruption, KFM a servi les uns les autres, toute la communauté. Aujourd'hui, KFM célèbre cet anniversaire, c'est qu'il y a lieu de plaider pour une certaine reconnaissance de son travail, notamment par l'exonération des taxes, parce qu'aujourd'hui, KFM fait face à plusieurs taxes, alors cela met à mal le fonctionnement des radios.
Du côté de la population, les auditeurs se disent satisfaits du travail de la radio et souhaitent qu'elle poursuive durablement sa mission. Raphaël Oupelele.
KFM, c'est une radio pionnière parmi les radios communautaires. Nous qui vont sous la bannière des droits de l'homme, c'est à partir de la KFM que nous sensibilisons, nous dénonçons, nous vulgarisons.
20 ans après sa création, KFM est confronté à des difficultés liées à l'accès à l'énergie. Son directeur lance un appel aux bonnes volontés pour soutenir la station dans la poursuite de ses activités. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Un nouveau virus destructeur du manioc vient d'être identifié en RDC, classé dans la famille des Secoviridae. Ce virus, baptisé Cassava Congo Chiravirus, a été découvert par une équipe de chercheurs de l'Université catholique de Bukavu. Il s'attaque directement aux plantes de manioc, une culture essentielle pour la sécurité alimentaire du pays. La clinique des plantes appelle les autorités nationales à renforcer les actions des diagnostics et de lutte contre les maladies qui touchent les cultures. Elle rappelle que le manioc constitue un pilier alimentaire pour les populations congolaises et représente une source de revenus vitale pour des millions de petits producteurs. La directrice de la clinique des plantes à Kinshasa, Dr Lina Mukwa, apporte davantage d'explications au micro d'Élise Kavira.
Jusque-là, en RDC, on parlait du virus de la mosaïque africaine du manioc, avec tous ses variants, notamment la souche de East African Cassava Mosaic Virus, mais aussi de la souche ougandaise, l'African Cassava Mosaic Virus. Maintenant, ces virus nommés Cassava Congo Shera Virus, c'est un nouveau virus qui n'a jamais été identifié en République démocratique du Congo. C'est une nouvelle espèce virale qui a été découverte sous le manioc par un groupe de chercheurs congolais à la base et d'autres chercheurs allemands et canadiens et belges.
Au Nord Kivu, un glissement de terrain survenu vers 1h du matin ce mardi a fait plusieurs victimes dans le village de Buruchi, situé dans la localité de Kachebere, au sein du groupement Luberike, dans le territoire de Walikale. Selon des sources coutumières locales, les bilans provisoires fait état d'au moins 9 personnes tuées et une dizaine d'autres portées disparues. Bernadette Nyangi pour les détails.
Cependant, une forte pluie qui s'abattait dans la zone depuis 18h locale hier lundi, qu'autour d'1h du matin ce mardi, une masse importante de terre s'est détachée de la colline surplombant le village de Buruti. Selon le chef du groupement Luberike, les éboulis ont tout emporté sur leur passage, des arbres, une dizaine de maisons, ainsi que leurs occupants qui dormaient encore. Un tronçon de la route Goma-Massissi-Walikale a également été enseveli par cet éboulement qui a fini sa course vers le fond de la vallée, couvrant un espace d'environ un hectare. Ce cadre coutumier avance un bilan provisoire de 9 personnes tuées, dont au moins 5 enfants, une dizaine d'autres disparus et plusieurs blessés. À cela s'ajoutent d'importants dégâts matériels, notamment la coupure du trafic à ce niveau, selon l'ONG locale Groupe d'Action pour la Protection de l'Enfant. Depuis la matinée, après que la pluie a cessé de pleuvoir, les habitants de cette localité sous occupation de la FCM-23 sont mobilisés pour rechercher les corps des disparus dans les décombres et les éboulis.
Dans la ville de Boma, au Congo central, les tenanciers des kiosques, bistrots et autres hangars installés de manière anarchique le long du boulevard Joseph Kasavubu ont jusqu'au 20 janvier pour procéder volontairement à la démolition de leurs structures. Dans un communiqué officiel rendu public lundi 12 janvier, la mairie de Boma annonce la fin imminente du moratoire accordé aux occupants de ces artères stratégiques. Selon ces documents, la maire ad intérim, maire Claudel Pembakiadi, explique que cette opération vise à supprimer les installations érigées en violation des normes urbanistiques afin de redorer l'image de la ville et de libérer une emprise publique longtemps obstruée par des activités commerciales. Nana Plurich Mambou, reportage.
D'après les communiqués, l'opération de déguerpissement forcé initialement prévue le 16 janvier est reportée au 20 janvier en raison du caractère chômé de la journée du 16. Sont concernés les propriétaires des maisons commerciales, hangars, kiosques et autres édifices construits de manière irrégulière sur l'espace public situé de part et d'autre du boulevard Joseph Kasavubu à partir du pont-ville. Les occupants qui se conformeront à cette mesure d'assainissement pourront récupérer leurs matériaux, notamment les planches et les tôles, avant l'expiration du délai fixé. Passé ces délais, les installations restantes seront détruites par brûlage sur place. Pour ce qui est des constructions en dur, la mairie précise que chaque cas fera objet d'un examen particulier après l'identification des responsables. La mairie rappelle enfin qu'au-delà des problèmes d'insalubrité, les occupations anarchiques enfreignent les normes urbanistiques, bloquent les trottoirs et rétrécissent la chaussée. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dernier jour de campagne avant la présidentielle et les législatives du jeudi 15 janvier en Ouganda. Ce mardi a été marqué par la coupure de l'accès à l'Internet dans tout le pays. Lors du scrutin, Yoweri Museveni, le président sortant au pouvoir depuis 40 ans, brigue son 7e mandat consécutif. Il a pour principal adversaire Bobby Wine. Les États-Unis ont officiellement classé mardi 13 janvier les branches des frères musulmans en Égypte, en Jordanie et au Liban comme organisation terroriste étrangère. Cette décision aux lourdes conséquences politiques et financières a notamment été saluée par le Caire.
L'invité.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont officiellement requalifié le mouvement Mobondo en groupe armé à neutraliser, estimant que son niveau d'organisation, son arsenal et ses modes opératoires relèvent désormais d'une rébellion constituant une menace directe pour la sécurité nationale. C'était le 28 décembre dernier, lors d'un point de presse tenu par l'armée à Kikwit. Dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce mardi 13 janvier, les différents intervenants ont exposé leur point de vue par rapport à cette situation. On les écoute au micro de Guy Matechongo.
Bonjour, Yannick Mambou, vous êtes député national élu du territoire de Kenge dans la province du Kwango. Vous êtes rapporteur de la commission permanente suivi et évaluation des lois, des recommandations, des résolutions et politiques publiques à l'Assemblée nationale. L'armée vient de requalifier, n'est-ce pas, les Mobondo en une véritable rébellion avec des revendications politiques. Comment vous réagissez à cette déclaration de l'armée, honorable Yannick Mambou?
Je pense que cette sortie médiatique de porte-parole des FARDC, 11e région militaire, je pense, ce sont des services de sécurité attitrés. Ils ont les données qui les amènent à déterminer ce phénomène comme tel. Mais moi, je pense que cette qualification est très forte par rapport à la réalité, à la naissance, à la croissance de ce phénomène Mobondo. Je ne pense pas vraiment que cette milice soit qualifiée vraiment d'une rébellion, je peux dire, par rapport à tout ce que nous avons recueilli depuis le début de ces milices ici.
Willy Bolio, vous êtes député national honoraire et notable de la province du Maïndombé. C'est quoi votre point de vue à cette requalification de l'armée de Mobondo comme une véritable rébellion?
La déclaration de l'armée ne me surprend pas. C'est ce que j'ai toujours dit depuis 2022. On a tenté de dire que c'était des Rwandais qui tuaient les Bateke. Aujourd'hui, on ne sait plus parler de Rwandais. Et le gouvernement qui faisait passer la thèse des Rwandais, aujourd'hui, est bloqué.
Comment on est arrivé là?
On en est arrivé là parce que le président de la République...
Une véritable rébellion.
Non, mais c'était déjà une rébellion. C'est parce que ils étaient en train de l'entretenir et ça a pris d'autres proportions.
Qui l'entretenait?
Vous savez, hein,
quand vous dites que...
C'est le gouvernement.
Quel gouvernement?
Le gouvernement dirigé par le président Tshisekedi.
Non, mais
je vous
quand
donne
vous dites
un
ça,
cas concret.
Quand vous dites ça, voilà, donnez les cas concrets.
Je vais vous donner les cas concrets.
Donnez les cas
concrets. Je vous donne un exemple banal. Si aujourd'hui quelqu'un avoue que les urines qui se trouvent sur la chaise, c'est lui qui a uriné, vous croyez que les matières fécales qui sont sur la chaise appartiendraient à qui? Si le président avait reçu ces gens-là, et si l'armée découvre que ceux qui protègent Mobondo sont derrière le président. Alors, vous voulez me dire quoi? Depuis que le capitaine a fait cette dénonciation, vous avez suivi combien sont arrêtés, combien sont interpellés, alors qu'il suffit seulement que quelqu'un fasse une déclaration dans les réseaux sociaux, lorsque ça n'arrange pas le chef de l'État, et demain il est à CNC, après demain il est dans des maisons privées d'arrestation.
Merci, Rigobert Louiseau. Vous êtes expert en résolution des conflits à l'initiative pour un leadership cohésif, ILC en sigle. Vous, en tant qu'expert qui a eu, n'est-ce pas, à travailler sur ces phénomènes Mobondo, qu'est-ce qui peut avoir poussé ces miliciens à se radicaliser jusqu'au point, n'est-ce pas, de représenter une véritable menace pour la sécurité nationale?
Les analyses qui ont été faites ont prouvé qu'effectivement, il y a un problème réel. Ça, on ne peut pas les refuser qu'il n'y a pas eu de problème entre
Yaka
les Teke et les Teke. Mais de ces problèmes-là, sûrement qu'il y a eu des évolutions.
Évolutions dans quel sens? Dans le sens de solutionner le problème ou dans le sens de négliger ou de laisser pourrir la situation?
Les deux, parce qu'à chaque étape où on amène une intervention, si l'intervention n'a pas été efficace, n'a pas répondu aux intérêts des uns et des autres, ça crée un nouveau problème et ça peut être une cause. Est-ce que les interventions qui ont été menées étaient celles-là qui devraient être menées à ce moment-là où on avait sous-estimé ou on est passé à côté?
Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions.
Voilà qui met aussi fin à notre grande édition du journal Parler du Matin, coordonnée par Richard Junior Kamunga et mise en onde par Alain Ngoy. Ce journal est aussi disponible sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix.